partager le souffle de ton cœur.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. Le président américain Donald Trump ne présente plus de symptômes du COVID-19 au lendemain de son retour à la Maison-Blanche. Après 3 jours d'hospitalisation, a annoncé mardi son médecin. Et M. Trump lui-même s'est dit impatient de débattre une nouvelle fois le 15 octobre avec son adversaire démocrate Joe Biden. Nous y reviendrons avec Eddie Isango dans un instant. En attendant, signalons que Stephen Miller, un des principaux conseillers de la Maison-Blanche, a été testé positif, le dernier cas rapporté mardi dans l'entourage premier de M. Trump depuis qu'il a annoncé la semaine dernière avoir été infecté. Par ailleurs, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, et plusieurs autres hauts responsables militaires se sont mis en quarantaine mardi après des réunions avec le numéro 2 des gardes-côtes testé positif. L'Agence américaine des médicaments, la FDA, a fixé mardi des critères plus stricts que ceux désirés par la Maison-Blanche pour approuver en urgence tout futur vaccin contre le COVID-19, rendant improbable toute autorisation avant l'élection présidentielle du 3 novembre. En Côte d'Ivoire, la plateforme nationale, un grand syndicat du pays, a demandé lundi le report de la présidentielle du 31 octobre, affirmant avoir les moyens syndicaux pour faire bouger les choses. La plateforme nationale exige l'organisation d'assises nationales pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et apaisée, a déclaré son président Théodore Nyanya Zadi lors d'une conférence de presse. Si l'organisation d'une telle rencontre, dont l'objectif est de sauver des vies, commande un report des élections, alors il ne faut guère s'attacher au fétichisme des dates, a poursuivi M. Zadi. Côte d'Ivoire toujours, 20 personnes, dont l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, sont accusées, je cite, « de complot et atteinte contre la sécurité de l'État ». Dans un instant, des détails avec Abdourahmane Dia. Le sort de Sophie Petronin, la dernière otage française dans le monde, et de Soumaïla Cissé, ancien ministre malien et candidat à la présidentielle, également présumé enlevé par les djihadistes, resté entouré d'incertitudes mardi soir, malgré les signes persistants d'une libération immédiate ou imminente au bout d'une longue captivité. Amnesty International a affirmé mardi que le gouvernement nigérian doit tenir sa promesse faite dimanche de sanctionner la brigade spéciale de répression des vols, une unité de police régulièrement accusée d'arrestations illégales, de torture, voire de meurtre. Après une large mobilisation des réseaux sociaux ce week-end pour dénoncer la brutalité de cette brigade, l'ONG de défense des droits de l'homme a écrit dans un communiqué « Sans réforme au sein de cette unité, ni effort pour mettre fin aux extorsions et violences contre les Nigérians, les promesses du gouvernement ne seront que de vaines paroles ». Des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé avoir trouvé un consensus sur des accords globaux en vue de la réunification des institutions régaliennes de leur pays mardi soir au terme d'un deuxième round de pourparlers au Maroc. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre des différentes médiations menées par l'ONU pour relancer le processus de règlement politique en Libye, actuellement déchiré entre deux autorités, le gouvernement d'union nationale basé dans la capitale Tripoli et le puissant maréchal Khalifa Haftar dans l'Est. Le Mexique se prépare à subir les assauts de l'ouragan Delta, qui pourrait être extrêmement dangereux lorsqu'il touchera le pays mercredi, forçant les autorités à déployer 5000 militaires. Finale NBA, les LA Lakers mènent désormais 3-1 après avoir battu le Miami Heat 102-96 hier soir. Los Angeles peut donc être sacré champion avec une 4e victoire dès vendredi. La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, 20 personnes, dont l'ex-premier ministre Guillaume Soro, sont accusées, je cite, de complot et atteinte contre la sécurité de l'État. C'est ce qu'a annoncé mardi le procureur d'Abidjan, Richard Adou. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ces accusations entrent dans le cadre d'une affaire qui a vu l'interpellation de 47 personnes depuis décembre. Selon le procureur, 8 sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles, alors que 19 ont bénéficié d'un non-lieu. Le juge d'instruction a terminé ses investigations. L'information judiciaire a démontré indubitablement leur participation active dans la commission de faits de complot et atteinte contre la sécurité de l'État, a-t-il affirmé. Parmi les 20 personnes concernées figurent Guillaume Soro et des proches qui vivent comme lui en France, comme son avocate, l'ex-ministre Afusiata Bamba Lamine ou son ancien chargé de communication Moussa Touré. D'autres sont en prison, comme deux frères de Guillaume Soro, Rigobert et Simon, les députés Alain Lobognon ou encore son ancien chef du protocole, Souleymane Kone, dit Soultoussoul. M. Adou a répété que les investigations reposaient sur des écoutes téléphoniques et des perquisitions ayant permis de saisir une cinquantaine de fusils d'assaut Kalachnikov et des lance-roquettes. Il a dit avoir bon espoir que le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro en décembre sera exécuté par les autorités françaises.
Après quelques reports, c'est finalement ce mercredi que se tient par visioconférence le mini-sommet entre les présidents Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museveni de l'Ouganda, João Lourenço de Angola et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Une initiative du président congolais que soutient Washington. Le point avec Nani Talani.
Le président Félix Tshisekedi séjourne à Goma depuis lundi. La principale ville de l'est de la RDC devait accueillir à la mi-septembre 5 chefs d'État de la région, mais la réunion a été reportée plus d'une fois. Et c'est finalement aujourd'hui qu'elle se tient, mais par visioconférence. Le nouveau président burundais, Evariste Ndayishimiye, sera absent, ayant évoqué des problèmes de calendrier. Bujumbura est en froid avec Kigali et Goma est plutôt frontalier avec le Rwanda. Paul Kagame, le président rwandais par contre, participera bien au mini-sommet. C'est lui-même qui avait suggéré que la réunion se tienne par visioconférence par mesure de prévention du Covid-19. Yoweri Museveni de l'Ouganda et João Lourenço d'Angola y participeront également. Depuis son arrivée au pouvoir, M. Tshisekedi joue les bons offices entre M. Museveni et Kagame. Il a facilité cette année un accord de paix entre les deux dirigeants. En visite à Goma, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, M. Michael Hammer, a réitéré le soutien de Washington à l'entreprise de M. Tshisekedi. Le bon voisinage, la sécurité et la coopération seront discutés au mini-sommet de Goma, selon la présidence congolaise.
Dans un communiqué commun, 23 ONG, dont la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Avocats sans frontières et l'Organisation mondiale contre la torture, ont condamné un projet de loi visant à protéger les forces de sécurité en Tunisie, estimant que le texte menace les libertés civiles. Nathalie Barge.
Des représentants de la société civile se sont rassemblés hier devant le Parlement lors d'une séance sur le projet de loi qui, selon ces organisations, représente une grave menace pour la paix sociale et l'équilibre du système juridique. Proposé en 2015 après l'attaque djihadiste contre le musée du Bardo à Tunis, le projet retire toute responsabilité à un agent dans l'exercice de ses fonctions, surtout quand il se trouve en situation de danger. Lundi, Amnesty International a appelé les parlementaires tunisiens à rejeter le texte qui, selon l'ONG, renforcerait l'impunité des forces de sécurité. Une impunité dont elle continue de bénéficier près de 10 ans après le soulèvement, a déclaré la Commission internationale des juristes. Ce projet de loi vise à se venger de la révolution des Tunisiens, a déploré de son côté la présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, Yousra Fraouis.
Présidentielle américaine du 3 novembre, le président Donald Trump, atteint du nouveau coronavirus, a annoncé mardi à la Maison-Blanche qu'il se prépare à prendre part à son deuxième débat contre le candidat démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden. Précision d'Eddie Isango.
J'ai hâte de prendre part au débat de la soirée du jeudi 15 octobre à Miami. Ce sera génial, a fait savoir le chef de l'exécutif américain dans un message sur Twitter. Le président Trump a été testé positif au Covid-19 jeudi dernier et a été hospitalisé pendant 72 heures à partir de vendredi à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington. Sur la base du calendrier, sa participation au forum citoyen de Miami durant lesquels les deux candidats répondent aux questions des lecteurs pourrait poser un risque pour le public. Les directives des centres de contrôle et de prévention des maladies précisent en effet qu'une personne infectée du Covid-19 reste contagieuse de 10 à 20 jours à partir de la date des premiers symptômes. La commission des débats présidentiels, ONG en charge des débats, ne s'est pas encore prononcée sur la question. La Maison-Blanche prend toutes les précautions nécessaires pour protéger non seulement le président Trump et la première dame Melania Trump, mais tous les personnels travaillant dans les complexes et ce, en conformité avec les directives des centres de contrôle des maladies, a fait savoir Jad Deer, porte-parole de la présidence américaine. Divers collaborateurs du président Trump, y compris la porte-parole de la Maison-Blanche, Kelly McEnany, ont été confirmés atteints du virus.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire a lancé la construction d'un nouveau terminal à conteneurs au port d'Abidjan qui assure 90% des échanges extérieurs du pays. Côte d'Ivoire Terminal pourra accueillir des navires de 300 mètres, transportant jusqu'à 15 000 conteneurs, les plus grands qui fréquentent les côtes africaines. Propriété de Bolloré APM Terminal, l'infrastructure coûtera 600 milliards de francs CFA dans un modèle de partenariat public-privé où l'État ivoirien a investi plus de 334 milliards de francs CFA. Les travaux dureront 18 mois. Le port d'Abidjan emploie près de 100 000 personnes et traite environ 600 000 conteneurs par an. Ici, aux États-Unis, la consommation totale d'énergie chutera à 2,3% cette année en raison du Covid-19 qui a entraîné la fermeture des entreprises. La demande d'électricité passera à 3 809 milliards de kWh contre 3 896 milliards de kWh en 2019. Mais les ventes d'électricité aux maisons résidentielles augmenteront de 3,2%, le coronavirus obligeant les gens à rester chez eux. Pour terminer, l'Organisation mondiale du commerce estime que les échanges commerciaux internationaux vont baisser de 9,2% en volume cette année contre les prévisions d'une chute de 12,9%. Pour 2021, l'OMC table sur un rebond de 7,2% contre 21,3% de hausse lors de ses prévisions d'avril.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, athlétisme. Pour commencer, l'Ougandais Joshua Cheptegei, champion du monde en titre du 10 000 mètres, s'attaque ce mercredi à Valence, en Espagne, au record du monde détenu par l'Éthiopien Kelenisa Bekele. Cheptegei, devenu à 24 ans la valeur sûre du fonds mondial, s'attaque au mythique record du 10 000 mètres 26 minutes 17 secondes 53, établi à Bruxelles en août 2005 par Bekele. L'Éthiopien, 38 ans, passé depuis sur la route, a manqué son rendez-vous dimanche avec le marathon de Londres à cause d'une blessure à un mollet. Les deux champions partagent les mêmes managers de l'agence néerlandaise Global Sport Communication qui co-organise la compétition. Coup d'envoi 19h55, temps universel chez les hommes pour le 10 000 mètres, précédé à 19h34, temps universel d'un 5 000 mètres féminin. Football, l'entraîneur de Nottingham Forest, Sabri Lamouchi, a été démis de ses fonctions après le début de saison catastrophique de l'équipe en Championship, deuxième division anglaise. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire sera remplacé par Chris Horton, ancien coach de Newcastle et Brighton, a fait savoir Nottingham sur son site web. Lamouchi perd la série de 4 défaites en autant de matchs de son effectif, avec notamment un dernier revers le week-end dernier à domicile face à Brighton 2-1. Ici aux États-Unis, Junior Flemings, joueur du Phoenix Rising D2 américaine, auteur d'insultes homophobes à un adversaire qui avait conduit les joueurs de San Diego à quitter le terrain en signe de protestation, a été suspendu 6 matchs. Flemings a été reconnu coupable d'avoir été l'auteur d'un langage grossier
sous la forme d'une insulte homophobe à l'endroit de Collins Martin lors du match joué le 30 septembre, a indiqué USL, United Soccer League, dans un communiqué. L'international jamaïcain avait fermement nié avoir insulté de la sorte Martin, qui est homosexuel, et l'a révélé en juin 2018, une première aux États-Unis pour un joueur en activité.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La CEDEAO a levé mardi ses sanctions contre le Mali, des sanctions imposées à la suite du coup d'État du 18 août qui a renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. La levée de ces sanctions est intervenue au lendemain de la formation lundi d'un gouvernement de transition de 25 membres dirigé par un président et un premier ministre civil. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint Sekou Tangara, directeur de la chaîne panafricaine basée au Mali. Il a été joint à Conakry en Guinée.
On peut faire, de mon point de vue, deux remarques fondamentales. La première, c'est l'effort qui a été fait en termes de structuration, en termes de minimisation du nombre de portefeuilles. On a vu, par exemple, qu'il y a eu des efforts pour mettre au niveau du même département l'agriculture, l'élevage, la pêche. Il y a également eu des efforts pour concentrer le tourisme, la culture et l'artisanat. Ça, c'était des remarques qui avaient été faites dans les différents attelages gouvernementaux au Mali. Le citoyen s'est posé la question, pourquoi ne pas mettre dans la même enseigne, dans le même département, un certain nombre de secteurs. Et on voit cet effort à travers ce gouvernement de la transition. La taille peut également impressionner parce que c'est 25 portefeuilles, contrairement à la trentaine, sinon à la quarantaine auxquelles on avait l'habitude d'assister précédemment au Mali.
Et qu'est-ce que vous dites des postes clés occupés par les militaires dans ce gouvernement?
Bon, si 5 départements sur 25 sont réservés à la junte, des départements régaliens comme la défense, comme la sécurité, comme l'administration territoriale, on peut bel et bien dire que la junte, sinon le CNSP s'est taillé la part du lion. Mais je me demande s'il faudrait se focaliser uniquement autour de cela, s'il ne faudrait pas voir également les efforts en termes d'intégration d'ex-rebelles, sinon des Maliens qui, à un moment, avaient des velléités sécessionnistes. Je veux parler de la coordination des mouvements de la Dawad. Je veux parler de la plateforme qui ont trois membres, trois portefeuilles dans le gouvernement. Et il y a également trois membres du M5, le mouvement du 5 juin, qui avait mené la contestation qui a abouti au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Moi, je pense que l'heure doit être au travail, quoi, au lieu de se focaliser sur le nombre de postes attribués à tel ou à tel autre.
Alors, l'heure doit être au travail. Quelle doit être la priorité?
Première priorité pour moi, la sécurité. Et deuxième priorité, c'est un peu des réformes institutionnelles, des réformes qui pourraient éviter au Mali des situations pareilles aux dernières législatives, parce qu'il y a eu des contestations, les gens n'étaient pas d'accord avec la Cour constitutionnelle, on a dissous l'Assemblée nationale, tout simplement parce que les Maliens ont pensé que les élections ne sont pas de nature à favoriser une transparence, et là, le bât blesse au niveau des textes. Donc il faut faire un toilettage des textes, pour que dans 18 mois, dans 17 mois, le régime qui sera élu ne soit pas contesté, ne puisse pas amener encore les Maliens dans la rue.
C'était Sekou Tangara, directeur de la chaîne panafricaine basée au Mali. Il a été joint à Conakry, en Guinée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, la société civile apporte sa contribution au plan européen et britannique de lutte contre la déforestation. Elle vient de formuler à cet effet des propositions au terme d'une large concertation ayant réuni à Yaoundé les membres de la plateforme Forêt et Communauté. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont décidé de changer leur politique liée à la consommation de produits qui mettent en péril les forêts dans les pays tropicaux. Et le Cameroun est l'un des pays concernés par ces phénomènes. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
La société civile camerounaise a proposé qu'un accent particulier soit mis sur l'implication des agences de financement européens dans la lutte contre la déforestation au Cameroun, en plus de veiller à ce que les processus de production de matières premières agricoles exportées vers l'Europe soient sains.
Le consommateur européen participe à la destruction des forêts en Afrique et ils se disent on peut peut-être jouer un rôle pour faire changer cela.
Samuel Nguifo est le secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, CED.
Le but de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, c'est de régler un problème qui se passe quand même chez nous. Celui qui vit à côté de ces agro-industries, c'est lui qui est le mieux placé pour pouvoir leur dire voilà ce qu'on veut voir.
C'est le CED qui a mené les consultations publiques sur la lutte contre la déforestation par les agro-industries basées au Cameroun et dont les produits sont vendus au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni. Sa Majesté Penabe Denis a participé aux dites consultations et les chefs traditionnels dans le département du Djaïlobo, région du Sud. Dans son village Ekoula, des agro-industries exploitent le bois et produisent l'EVA écoulé dans l'espace de l'Union européenne et au Royaume-Uni.
L'Union européenne sait que le bassin du Congo, dans lequel nous vivons, est une ressource importante pour l'oxygène, pour le monde. Il est important, sinon indispensable, que les opérateurs, qu'ils soient d'exploitation forestière ou agro-industrielle, respectent la réglementation et les lois en vigueur pour mettre en œuvre leurs activités.
Le respect des droits de l'homme dans les processus d'accès aux terres et de production figure également en bonne place dans les propositions formulées par la trentaine de personnes ressources consultées.
Nous demandons que les terres nous soient rétrocédées.
Clématine Ngosso-Ekoué réside dans l'arrondissement de Lokoundé, non loin de Kribi, au sud du Cameroun.
Sans terre, il n'y a pas d'agriculture. Et sans agriculture, c'est de la famine. Nous demandons que l'Union européenne s'incline dans des conditions de travail. Les conditions de travail sont très, très drastiques pour les femmes.
La consommation dans l'espace de l'Union européenne des produits tels que la viande, le soja, le maïs, le bois, l'huile de palme ou encore le caoutchouc représente 10% de la déforestation mondiale. L'exploitation de ces produits au Cameroun menace aussi la survie des peuples autochtones. Jeanne Biloua est issue du peuple autochtone Baguili.
C'est ce que l'Union européenne ne réagit pas avec l'État. Les peuples autochtones seront comme les chauves-souris parce que nous, on n'a pas la force de se défendre.
La forêt, selon les experts, occupe 30% de la surface de la planète, mais elles sont gravement menacées par la déforestation avec 1,3 million de kilomètres carrés de surface forestière perdue entre 1990 et 2016. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Au Sénégal, le grand Magal de Touba, qui célèbre le départ en exil de Cheikh Amadou Bamba et réunit des millions de pèlerins, se tient malgré la présence du coronavirus. Les autorités religieuses ont maintenu la célébration en insistant sur le respect des mesures barrières. Les fidèles et les organisateurs s'y conforment au grand bonheur des vendeurs de masques. Propos recueillis par notre correspondant Sédina Abagui.
Se laver les mains, porter un masque et célébrer le Magal, c'est le seul mot d'ordre qui vaille. Si on veut que nos prières soient acceptées.
Entrer dans la mosquée en respectant les mesures d'hygiène, porter les masques et mettre le gel hydroalcoolique pour se conformer aux directives du calife.
Les dispositions que nous avons prises ici vont dans le sens des recommandations du calife, c'est-à-dire le respect des mesures barrières. Vous avez vu ici dans cette maison qu'avant d'y entrer, il faut se laver les mains, porter un masque pour se protéger et protéger bien évidemment les autres.
La vente de masques marche super bien. On s'en sort franchement bien car les gens m'achètent plusieurs pour se conformer aux recommandations du calife. Depuis que je suis là, j'ai vendu plus de 300 masques, ce qui nous permet d'avoir des gains journaliers supérieurs à 15 000 francs.
FM 102, c'est VO.
Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris doivent se rencontrer ce mercredi dans la soirée dans un débat qui, pour de nombreuses raisons, pourrait être plus intéressant et moins troublant que le débat présidentiel ou vice-présidentiel typique. Explication de Steve Reddish, récit d'Arzuma Compaoré.
Le débat vice-présidentiel est considéré comme un match préliminaire, un lever de rideau dans le processus électoral. Alan Schroeder est professeur de communication à la Northeastern University.
Je pense que les débats vice-présidentiels sont souvent plus intéressants à regarder. Les enjeux sont moindres. Les participants se sentent un peu plus libres de dire et faire ce qu'ils veulent.
Le débat de mercredi entre le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris a plusieurs scénarios qui le rendent plus intéressant et regardable. Mitchell McKinney, professeur de communication à l'Université du Missouri.
La nature historique de la nomination de Kamala Harris est le fait qu'une femme de couleur, première femme de couleur, participant à ce niveau du processus électoral pour un grand parti politique, va débattre.
Géraldine Ferraro a été la première femme à participer à un débat vice-présidentiel face à George Herbert Walker Bush, le colistier de Ronald Reagan en 1984. Mary Kate Carey est senior fellow au Miller Center de l'Université de Virginie.
Je me souviens qu'il y avait une appréhension sur la manière dont le vice-président Bush devait débattre face à la première femme sur un ticket présidentiel. Il pouvait souvent être un homme très compétitif. Il était très bon en débat, maîtrisait son sujet, mais ne voulait pas avoir l'air de l'intimider de quelque manière que ce soit.
En 2008, les électeurs étaient ravis de voir Sarah Palin faire face à Joe Biden.
Les attentes pour le débat vice-présidentiel Biden-Palin étaient grandes. C'est la seule fois dans l'histoire des débats présidentiels qu'il y a eu plus de téléspectateurs que le plus suivi des débats présidentiels. Et cela n'était pas des moindres parce qu'ils incluaient Barack Obama en termes de débat historique.
Maintenant, le test positif au COVID-19 du président Trump augmente les attentes déjà élevées pour le débat Pence-Harris.
Le vice-président Pence était à l'origine à la tête du groupe de travail sur le coronavirus. Trump a semblé en quelque sorte prendre le relais par la suite. Mais certainement, la campagne Harris s'attaquera à Pence sur les préoccupations liées au coronavirus et se penchera sur tout ce qu'il a mal géré ou aurait pu faire. Elle a la réputation d'être une interrogatrice très agressive au sein de la commission judiciaire du Sénat. Elle est connue pour poser des pièges et tenter d'inciter les gens à répondre. Donc, elle sera une débatteuse très redoutable, je pense. Pence, de l'autre côté, est un monsieur assez imperturbable au point de ne pas être parfois très animé du tout. Donc, les chances qu'il tombe dans n'importe quel piège sont assez faibles.
Sa maladie mise à part, le président Trump a 74 ans, Joe Biden a 77 ans. Ce débat vice-présidentiel a des implications futures certaines.
Si Mike Pence fait un autre bon débat en 2020, comme il y a 4 ans, cela contribuera vraiment à renforcer sa position de candidat républicain en 2024 et de même pour Kamala Harris, qui est évidemment assez jeune pour avoir une ambition à long terme ici.
Mais trop se concentrer sur les 4 prochaines années risque de faire perdre de vue leurs principaux objectifs dans ce débat, défendre le candidat à la présidentielle qui est leur candidat.
Je pense que nous verrons de nouveau Kamala Harris défendre le fait que Trump ne devrait pas être reconduit à la présidence. Et puis Pence devra défendre les 4 années écoulées. Ce sera donc, je pense, un débat intéressant à regarder.
Les candidats à la vice-présidence s'affronteront mercredi soir à Salt Lake City, dans l'Utah.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée.